pied sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
Le 20 janvier 2012, alors qu'il participe à la campagne présidentielle aux côtés de François Hollande, Arnaud Montebourg se rend à Yssingeau, en Haute-Loire, pour rencontrer les ouvrières de Le Jaby, dont l'usine est en train de fermer. C'est le dernier site de production du fabricant de lingerie en France, dont nous avions, au pied sur terre, suivi les aventures et tristes soubresauts.
C'est vrai, moi je suis une fille immigrée, j'avais pas beaucoup de famille pour m'accepter comme ma famille.
Faut pas rester. Pas rester seul. Hein.
Je vais pas me plaindre, je suis pas loin de la retraite, j'ai travaillé, j'ai cotisé, j'ai mis mon travail. Et voilà, on arrive à la fin. C'est bête parce que c'est une entreprise qu'on aimait bien, on a tout donné, on a tout. Ça part bêtement, quoi, c'est ça.
Tiens.
Merci. Le Jaby. On aimait le Jaby. C'est notre vie. On est rentré jeune fille, on sort grand-mère. Voilà. C'est ça. Vous vous rendez compte? On rentre jeune fille, on sort grand-mère.
En janvier 2012, lors de sa visite, Arnaud Montebourg, sous les acclamations des salariés, promet que la gauche au pouvoir engagera, je cite, un mouvement de relocalisation. Vous symboliserez la situation du pays, dit-il, qui a perdu 750 000 emplois industriels en 5 ans. Mais il n'y a pas de fatalité. Sa défense du soutien-gorge tricolore est un temps fort de la campagne. En octobre 2012, c'est sans l'aide de l'État, grâce à un premier appel aux dons, que les anciennes couturières réussissent à créer une société coopérative d'intérêt collectif qui emploie une trentaine de personnes. Cette levée de fonds propres est saluée par Arnaud Montebourg, devenu ministre du redressement productif. Il fait de cette coopérative l'un des symboles du Made in France. Un an plus tard, le 5 février 2013, la coopérative des Le Jaby, qui s'appelle les Atelières, est déclarée en cessation de paiement. La crise russe, 70 000 euros d'impayés et de grosses baisses de commandes expliquent les difficultés de l'entreprise d'après Le Monde. L'échec de cette coopérative, la disparition achevée des Le Jaby, est un symbole, celui de la fin du monde ouvrier, de sa délocalisation programmée. Alors aujourd'hui, dans Les Pieds sur Terre, en ce jour de fête du travail, on appuie sur la touche arrière et on part à la recherche de ce qu'a été ce monde. Petite balade dans les archives de l'INA, en quête de cette mémoire qui est peut-être en train de raconter ses derniers moments. Un récit de Leïla Djitli.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Qu'est-ce que c'est qu'un ouvrier? Est-ce que ça existe encore, un ouvrier? Moi, je me le demande. Il n'y a plus d'ouvriers. Il y a très peu d'ouvriers. Il n'a pas compris, ça a été leur perte, d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est qu'un ouvrier? Qu'est-ce que c'est qu'un petit bourgeois? Qu'est-ce que c'est le prolétariat? Qu'est-ce que je suis devenu, moi? Je suis un ouvrier, moi? J'étais rentier à 50 ans.
C'est-à-dire licencié en pré-retraite?
On peut appeler licencié, on pourra appeler ce qu'on voudra. Mais n'empêche que... Oh ben j'ai mon salaire qui tombe tous les mois et je travaille pas. Qu'est-ce qui me reste d'ouvrier? Je suis qu'un petit bourgeois.
Et voici l'usine. La grande masse de l'usine rouge et noire qui tout entière va se mettre à vibrer. À côté du grand portail s'ouvre une petite porte sur un long couloir. C'est là que se trouve l'horloge de pointage. Tous les ouvriers, les uns derrière les autres, pointent.
Les ouvriers entrent maintenant dans le corps de l'usine. Ils sont en plein dans leur ambiance sonore. Les machines commencent à tourner.
Chacun se dirige vers sa machine et Marcel, notre ouvrier, vers sa machine à décolleter.
D'autres prennent place dans l'atelier de tôlerie.
Une production du journal parlé de la radiodiffusion française.
Vous allez pénétrer avec moi pendant quelques minutes dans une filature moderne, dans un tissage qui exporte dans le monde entier, dans les taudis qui vont disparaître, dans une cité nouvelle qui est en train de naître. Et maintenant, suivez le guide.
Roubaix, 1948.
Il est 5 heures du matin. Déjà, depuis près d'une demi-heure, dans les rues, les ouvriers se pressent vers les usines. Car ici, dans le Nord, le travail en deux équipes est très généralisé. Entrons avec les ouvriers. Une usine aux murs clairs, des verrières immenses par où pénètre la lumière à flot, des haut-parleurs et de la musique.
Mesdames, vous travaillez chez Mécano depuis combien d'années ?
Depuis 34 ans, madame.
Et vous ?
Moi, 35 ans.
Non, non.
Vous faites combien d'heures par semaine ?
45 heures.
J'ai un horaire de 9 heures par jour et en 5 jours, 45 heures par semaine.
Et vous gagnez combien ?
Entre 57 et 60 000 francs par mois. Enfin, 60 000 francs, anciens francs,
oui.
On entend, par mois.
Alors, au somme, vous êtes satisfaite ?
Oui, madame.
Nous venons de quitter l'atelier des rembideurs et nous sommes dans le fumoir. Le fumoir des grands patrons avec des fauteuils en cuir moelleux. C'est une grande salle, vide, avec un appareil de radio, vous l'entendez je pense en fond sonore. Des ouvriers qui se reposent, des ouvriers de tout âge, des jeunes, des vieux. Un bar. Qu'est-ce qu'on peut boire au fait dans ce bar ?
On peut boire de la bière, de la limonade.
Est-ce que vous êtes payé pendant que vous vous reposez ici ?
Oui.
Vous avez le droit de vous poser combien de temps ?
Jusqu'à temps que la cigarette est finie. 10 minutes.
10 minutes. Vous gagnez combien ?
50, 52.
Ça fait à peu près 80 francs par jour, non ? Mais il y a quelque chose qui me frappe, c'est que chaque fois qu'on demande à un ouvrier directement combien il gagne, il consulte de l'œil ou le chef du comité d'entreprise ou le directeur pour savoir combien. Enfin, vous devez bien savoir combien vous gagnez, non, monsieur, vous-même. Personne ne veut parler, non ? Alors, il veut dire quelque chose devant le micro. Ce qui me frappe dans l'usine où je me trouve en ce moment, c'est la gaieté qui est dans tous ces murs, sur tous les visages d'ouvriers, et qui vient peut-être en très grande partie de ce que cette usine ne ressemble pas à la majorité des usines. Il y a de la musique dans tous les ateliers, des peintures claires sur les murs, et on ne voit presque nulle part la couleur grise si chère aux usines de France. Je vais demander à l'industriel que j'ai devant moi, plein de désir de faire chaque jour mieux. Tout ce modernisme, ce progrès joyeux, pourquoi l'avez-vous poussé à ce point dans vos usines ?
Nous pensons que le climat dans lequel l'ouvrier travaille est un élément capital pour le facteur moral. Les couleurs grises sont de nature à appeler le pessimisme. Les couleurs claires ensoleillées, au contraire, donnent un cadre joyeux au travail et ne peuvent que contribuer à la production. Si l'ouvrier spécialisé a des satisfactions dans son travail, l'ouvrier non spécialisé peut éprouver la monotonie et même parfois l'amertume de sa condition. Nous voulons qu'il l'oublie dans une certaine mesure et c'est pourquoi nous cherchons à le distraire par la musique ou par d'autres éléments. Nous cherchons à satisfaire l'atmosphère de son travail. Je puis vous dire d'ailleurs que dans nos établissements, les conflits sociaux sont extrêmement rares. Les seuls cas qui se posent à l'échelon syndical. Dans l'ensemble, nous pouvons nous déclarer satisfaits des résultats obtenus et de la bonne entente qui existe entre patrons, directeurs, contremaîtres et ouvriers. Tout est possible, mais il faut améliorer la conception scientifique du travail. C'est seulement de cette manière que l'on pourra relever la condition ouvrière. Il est temps de cesser le travail à la pelle et de remplacer ça par des pelles mécaniques. Il faut remplacer le pinceau du peintre par un pistolet automatique. Et je crois que de cette manière, on pourra rendre à la production toute une série de gens qui gaspillent leur temps et qui de ce fait pourront participer à une production accrue.
Ce que vous venez d'entendre, c'est l'esprit moderne du Nord. Voulez-vous voir maintenant un autre côté du problème, celui du logement ? Alors, suivez avec moi cette petite fille malingre, chétive, que j'ai rencontrée tout à l'heure. qui chante de sa voix pointue et maladroite une chanson qui n'est pas de son âge.
Il est entré dans mon cœur une âme de bonheur et je connais l'accord. Et lui pour moi, lui pour lui dans la vie, il me l'a dit.
Nous allons aboutir dans le quartier Saint-Sauveur à Lille. Cela s'appelle Cour du Soleil. Des murs noirs, si hauts que le soleil n'a jamais pu les lécher de ses rayons. Ici, il y a un terrain vague, rempli d'éboulis de toutes sortes, des pierres, des fils de fer rouillés. Un water-closet, peut-on appeler ainsi un endroit sans eau, fait d'une planche, d'un trou, d'une porte à claire-voie, pour les 40 ou 60 locataires qui vivent dans ces courries. À une extrémité de la cour, le robinet qui alimente en eau tous les locataires, car il n'y a pas d'eau dans les logements. Et puis au centre, les poubelles communes, des boîtes de sardines remplies d'une boue noirâtre. Ce sont les moules qui servent à faire des pâtés à d'autres enfants aussi misérables que la petite que j'ai eu la curiosité de suivre ici. Vous les entendez, ces petits? Ils n'ont pas de soleil, pas d'air, pas d'arbres. Une maison écroulée leur sert de square, et pourtant, ils chantent.
Il vit pour moi, lui pour lui dans la vie. Il me l'a dit pour la vie.
France Culture, les pieds sur terre.
1963.
Vous êtes né quand?
Le 4 mai 1898.
Et vous avez toujours été bonnetière?
Oui, j'ai fait que ce métier.
Votre mère, votre père aient travaillé dans la bonneterie?
Mon papa, je suis orpheline, j'avais 16 ans à peine. Il est mort en 1913. J'ai plus que maman. Elles toutes les deux ont travaillé en bonneterie. Et je suis rentrée chez Louis Bonbon, dans la rue Béguin. J'avais 15 ans. Alors j'étais la contre-maîtresse, comme ça. C'était une vieille dame. Et alors, j'y faisais tout son travail. Elle était très contente de moi. Mais j'avais des amis et qui étaient à la couture et qui gagnaient beaucoup plus. Alors j'ai demandé à la contre-maîtresse une place de couseuse. Mais comme je faisais bien l'affaire pour elle, que je faisais tout... Alors, elle a dit, vous ne gagnez jamais votre vie sur une couseuse, je ne vous donne pas de couseuse. Alors moi, quand le directeur a passé, je me suis payée de culot, j'ai couru après lui. J'ai dit, pardon monsieur, alors j'ai expliqué ma situation. Alors il m'a dit, mais pourquoi qu'on ne vous donnerait pas une couseuse? On va vous essayer. Alors il m'a donné une couseuse. Mais à ce moment-là, je dois dire qu'on payait la personne qui vous apprenait. L'apprentissage était payant par l'ouvrière. Et alors, à un moment donné, un an après que je cousais, le directeur vient près de moi, puis il m'a dit « Voudriez-vous être ourleuse? Vous feriez une belle ourleuse parce que vous êtes très habile. » Oh, j'ai dit « Monsieur, j'ai fait un apprentissage, j'en fais pas deux. Je n'ai pas les moyens à faire deux. » Et il m'a dit « On va s'arranger. » Il a dit « Ce que vous gagnez en ce moment sur votre couseuse, on vous le paiera jusqu'à ce que vous le dépassiez, puisqu'on était aux pièces, évidemment. » Alors, c'est ce que vous dépassiez, ce que je gagnais à cette époque-là. Et j'ai toujours bien gagné ma vie parce que j'étais habile. Dans les grandes usines, c'était propre, c'était tenu. L'éclairage était, ma foi, moi je me rappelle des gros globes, c'est un charbon qui était au milieu et qui éclairait pour tout le monde. On ne voyait presque pas clair. On n'avait pas des lampes à nos machines. D'ailleurs, moi, si j'ai une mauvaise vue, c'est à cause de ça. Et je ne suis pas la seule, parce qu'il y a beaucoup de bonnetières qui souffrent des yeux. Il y avait aussi les amendes, pour un oui, pour un non. Par exemple, des amendes de retard. Ça rognait le salaire, le petit salaire que l'on touchait. Hein. On a connu la misère en travaillant. C'est ça qu'il faut dire. On avait des salaires qui nous permettaient de manger un morceau de pain pour remonter la machine, pour retravailler le lendemain. Nous, on a connu les patrons rois, les patrons qui vont être à la porte parce que peut-être lui, il ne plaisait pas, ou pour une chose ou pour une autre. On ne vous avertissait pas, vous étiez malade, vous envoyiez votre machin de docteur, mais quand vous rentriez, vous étiez mis à la porte. La bonneterie troyenne, c'était quelque chose de mondialement connu, comme tissu, comme travail fini, etc. On avait une main-d'œuvre ici à Troyes, une main-d'œuvre avec des mains d'or. Je vous assure que vraiment, on faisait du bon travail. On l'aimait, le métier, puisqu'on luttait pour le garder. Hein? Et qu'est-ce que vous voulez, vous, qu'à Troyes, où il n'y avait qu'un seul travail pour les femmes, la bonneterie, qu'est-ce que vous voulez, à quoi voulez-vous que pensent les femmes? Elles allaient à l'usine. On luttait pour avoir de meilleurs salaires, c'est qu'on l'aimait, le métier. Hein? Il n'y avait pas un mois sans qu'il y ait une ou deux manifestations pour des salaires, pour ceci, pour cela. Les Troyennes ont toujours été très combatives. Il ne fallait pas leur marcher sur le pied. Mais je dois vous dire, j'ai claqué sur le nez, le gars il a saigné du nez, c'était un directeur qui était en train de basculer une gamine de 15 ans dans les machins à côté là. J'ai juste pensé à ce moment-là, j'ai dit ça serait ma fille, je te tuerais. La Troyenne, elle avait un mauvais langage parce qu'elles étaient très grossières. Moi, je me rappelle qu'un jour, il y avait une femme, elle me dit « Ça va, petit con ?» Alors, je lui dis « Madame, je suis polie avec vous, vous serez polie avec moi. »« Oh, tu vois, cette petite merdeuse !» Voilà. Ces gens-là, de cette souche-là, ils n'avaient pas d'éducation. Ils ne lisaient pas du tout. Alors, ils vivaient sur l'acquis, et au jour le jour. Mais ce que je puis dire, c'est que moi, j'ai aimé le prolétariat troyen pour ça. Ils avaient un fond d'honnêteté les uns envers les autres et surtout, une grande combativité.
Fourmi, 1969.
Robert Caron, entré à l'usine en 1926.
On commençait tout gamin. Moi, 12 ans, je travaillais. C'était un peu le bagne hein, dans le filature. C'était un travail assez dur. Le matin, quand on arrivait, on n'avait pas beaucoup de répit. Hein. On avait les machines à faire le graissage des broches. Quand on avait terminé tout ça, on avait à préparer les tubes, tout ce qui était nécessaire pour la marche des machines. On manœuvrait un petit peu dans la saleté, quoi, dans l'huile. On revenait, on avait les pantalons pleins d'huile. On n'avait pas beaucoup de temps de respirer. Quand on avait le temps de manger, c'était tout juste. Hein? Il y avait des moments où on remballait le casse-croûte parce qu'on n'avait pas eu le temps nécessaire pour manger. Oui.
Et tout votre salaire, vous le donniez à votre mère?
Genre intégralement. Bah, de toute façon, les salaires à cette époque-là n'étaient pas gros. Hein. À cette époque-là, combien que j'avais 250 francs par semaine, je crois. 210 francs par semaine.
Mais un enfant pouvait se plaindre à quelqu'un?
Bon, c'était pas possible. Hein. Si vous aviez un litige avec le contremaître ou avec... Bon, on ne se gênait pas pour vous dire, mais si ça ne vous plaît pas, la porte, elle est là. C'était comme ça que ça marchait. Vous savez qu'on n'avait pas de vacances avant. On n'avait pas de congés. Les congés, ça remonte à 36. On ne connaissait pas de toute façon. Hein. On ne savait pas comment ça se passait, rien du tout. On savait que ça existait, mais on ne pensait même pas de pouvoir en profiter un jour. C'est pour ça que les premières vacances, pour nous, c'était quelque chose d'important. Mais alors, on vivait en vacances comme on vit chez nous. On ne dépensait pas plus. Parce qu'on touchait comme congé, c'était vraiment dérisoire. On n'avait pas grand-chose pour en profiter. On a réussi à partir voir la mer qu'on n'avait jamais vue. Et puis on avait réussi à avoir une petite voiture d'occasion. On n'était pas ambitieux, vous savez. Hein? Alors on partait en vacances un petit peu, vous savez, au petit bonheur la chance. Hein? On n'avait pas beaucoup de matériel. Hein? Le premier campement qu'on a fait, je n'avais même pas de table, on n'avait rien du tout. On a campé avec une toile de tente et puis une couverture qu'on mettait en bout de la tente pour se protéger.
«
Lorraine, 1988.
Alors, monsieur Egloff, on revient avec vous à l'endroit où vous avez passé toute votre vie de travail.
Exact, hein, exact.
C'est le siège de Folchwiller.
Folchwiller, oui, c'est ça.
C'est un siège qui a bien changé, j'imagine.
C'est un siège qui a débuté, j'avais donc 14 ans, hein, et j'ai passé mon apprentissage ici au siège, comme apprenti électricien. Et j'ai, pour ainsi dire, assisté au montage de l'ensemble du siège, hein, ainsi qu'à sa fermeture. Vous avez ici le bâtiment de la centrale, centrale chaufferie. Alors donc, ce bâtiment-là, c'était, pour ainsi dire, le...
C'est le cœur, un peu.
Le cœur de la mine, si vous voulez, quoi. Donc, chaque fois que je passais là et que je voyais un autre bâtiment qui tombait, ça me faisait plutôt mal. À vous dire qu'un jour, j'étais chez moi et le chevalement du Puy 2 était donc prêt à être démoli et je savais qu'il allait tomber d'un moment à l'autre. Je suis rentré chez moi, j'étais à peine chez moi, j'entends un bruit sourd, c'était le chevalement qui tombait. Je fonce dans la voiture, je monte au siège et le chevalement était par terre. Alors, vous comprenez très bien, c'est comme si on m'avait arraché un bras. Pour moi, c'était une partie de ma vie qui est tombée, si vous voulez.
Billancourt, 1992.
Renaud Billancourt, est-ce la fin d'un monde ?
Bah déjà, quand tu arrivais à la moitié de l'île Seguin, tu avais déjà un bruit très caractéristique qui te tombait dessus pour celui qui, pour la première fois, arrivait dans l'île Seguin. Moi, je me rappelle que c'est ce qui m'avait marqué quand je suis arrivé en 68 dans cette entreprise. C'est le bruit de l'atelier des presses qui ne se reconnaît pas seulement au niveau du son, mais également au niveau des vibrations dans le sol.
Lentement, le grand paquebot arrêtait un à un ses moteurs. Entre le pont de Sèvres et le pont de Billancourt, nous arpentions le quai, scrutant le pont bleu célèbre qui relie l'île Seguin au trapèze Renault sur la rive droite, guettant la vie qui animait auparavant ces lieux. Vers 14 heures avant, on ne pouvait plus circuler sur le quai car le flot de voitures s'intensifiait soudain à l'heure de sortie des équipes du petit matin. Vers 14 heures, les cafés alentour devenaient des ruches. Mais cette dernière semaine, on pouvait s'y parler et s'y entendre. Au café, place Birakem, deux ouvriers devant un demi. Ils sortent de l'île. Ils évoquent les étages de l'usine que depuis quelques jours on ferme un à un à mesure qu'avancent les étapes de fabrication des voitures. Car si la fermeture officielle est annoncée pour le mardi 31 mars, la fabrication s'arrêtera réellement le vendredi 27 mars. État des lieux, le 24 mars 1992.
Bah, vendredi, ça va arriver au bout. Il reste 271 voitures à faire encore. On va faire 110 par jour. Donc vendredi, il ne restera plus que 50. Moi, je fais l'enregistrement des voitures, les plaques ovales, l'identification de la voiture.
Moi, je fais le moteur de CVT, évier de vitesse.
Dans la région parisienne, il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place à Flins, ni Choisy-le-Roi, ni nulle part. Sinon, voilà. Aller en province.
En province, ça ne m'arrange pas. 300 km, ça ne m'arrange pas.
Moi, je suis né en 39, je vais en disponibilité. C'est-à-dire pendant un an. S'il y a besoin, ils vont me rappeler, mais ils ne rappelleront pas puisque c'est fermé. Là, on part avec 75% du salaire. C'est déjà bien.
Nous accusons Chirac d'avoir saboté la production de la régie nationale des usines Renault.
Mon papa, c'est le plus gentil du monde. Le matin, c'est lui qui m'amène à l'école. Avec sa Renault 25.
Renault, la vitrine sociale des années 50, 60, 70 a complètement tourné le dos au progrès social.
Rappelez-vous, camarades, dès l'annonce de la fermeture de l'usine de Villeborde, l'action Renault a fait un bond de 13% à la bourse. Le drame est que ceux qui nous dirigent considèrent le travail comme un coût et la bourse comme moyen de revenu.
pour nous, c'est très, très triste, quoi. Surtout quand on a passé toute sa vie là, quoi.
Oui, enfant, vous étiez là.
Moi, j'ai connu toutes les grèves de 36, la garde mobile en 37 qui chargeait les ouvriers à coups de matraque avec les chevaux, et ainsi de suite. Je me rappelle, c'est marqué dans ma mémoire pour toujours, quoi. Et puis après la guerre, enfin tout ce qui s'est passé, la réussite, l'évolution, la 4 chevaux, le redémarrage, qui a été formidable, quoi. Et puis une extension jusqu'en 75. Puis après, c'était déjà le début 80 de diminution du travail et des effectifs. Et je peux dire qu'ici, pendant des 90 ans, chaque billet qui rentrait, il y avait, je sais pas, 95% de la somme qui venait de chez Renault. Hein. Pratiquement, il n'y a plus Renault qui nous faisait vivre. On a le losange un peu marqué à l'intérieur pour les gens qui ont travaillé et qui aimaient leur usine. Quoi. Ça a fait vivre 3 générations, pourquoi pas une 4e. Mais là, je pense qu'on arrive à la fin, quoi, avec la suppression de Seguin. Et puis, le quartier est en pleine mutation, on est appelé à disparaître, exproprié pour les nouvelles choses qui se font dans le quartier, c'est-à-dire les constructions nouvelles, des bureaux, des habitations. De toute façon, il y a un veto de la mairie, on ne peut plus rien faire, on ne peut ni vendre, ni partir, on est coincé là jusqu'à la fin.
On tourne une page très importante.
Je crois que c'est terminé, quoi, c'est la fin.
Nous, on n'est pas des sauvages. On a envie de travailler, qui nous donne du travail, on travaille, c'est juste ça. Mais le fait de travailler et puis de virer les gens comme ça, franchement, ça n'a pas de sens. C'est l'esclavage moderne.
Travels through me as I twist on my face.
Aujourd'hui encore, c'était les pieds sur terre avec un retour dans les archives de l'INA et de la mémoire ouvrière à l'occasion de cette fête du travail. Bonne fête du travail à toutes et à tous. C'était un reportage de Leïla Djitli réalisé par Emmanuel Geoffroy. L'attachée de production, c'est bien sûr Sandrine Chaperon et notre stagiaire, c'est Céline Autain. Merci à Marine Decanse qui est documentaliste à l'INA. Si vous avez des réactions, des commentaires, des suggestions, rendez-vous sur les réseaux sociaux. Nous avons une page Facebook, Les Pieds sur Terre, France Culture, et un compte Twitter qui vous attendent nombreux.